Les seigneurs des anneaux.
Et bonjour, cette première médaille, la délégation suisse la tient à Pyeongchang. Elle reviendra en curling à Jenny Perret et à Martin Rios. Le duo de curleurs helvétiques participe actuellement à la finale du double mixte contre le Canada. Nous la suivrons avec un œil attentif dans Les Seigneurs des Anneaux, notre magazine quotidien de l'actualité olympique. C'est chaque jour de la semaine, après le flash de 13h et à 12h35 le week-end. Une émission présentée aujourd'hui en compagnie de Marcel Neuenschwander. Bonjour Marcel, ça va ?
Oui, bonjour et vous ?
Ben, ça va très bien, on a une médaille.
On a déjà une médaille, mais on ne sait pas si elle sera d'or ou d'argent. Oui, on va en parler d'ailleurs. Hein.
On va en parler et c'est grâce à vous, car en sortie d'émission hier, vous nous avez dit, tenez-vous les pouces.
Et vous avez bien fait, manifestement, vous les êtes tenus et ça a réussi pour l'instant. Mais enfin, j'ai le sentiment qu'il faudrait vraiment se les tenir très fort pour que ça se transforme en or.
Ouais, peut-être pas que les pouces quand on regarde un œil sur le résultat. Bon, on ouvre notre première rubrique.
La petite histoire olympique.
Oui, eh bien, avant de se lancer dans notre petite histoire olympique, Jérôme, quelques précisions quand même sur cette finale du double mix de curling entre la Suisse et le Canada. Les deux formations qui entament maintenant le sixième end. Et c'est mal parti pour les Suisses, il faut le dire, puisque ceux-ci sont menés désormais 8-3. Tout à l'heure, le Canada, dans le troisième end, a infligé un sec coup de 4. On voit mal les Suisses renverser la situation, quand bien même ils avaient réussi ce coup-là contre la Russie. Ils étaient menés 7-2, ils l'avaient emporté 9-8. Mais enfin, le Canada, ce n'est pas la Russie.
Et oui, et quelqu'un me souffle à l'oreille que vous, peut-être, vous préférez garder la Russie quand même jouer avec le Canada. Hein.
Oui, il y a une bonne raison à cela, mais enfin, on ne va pas l'évoquer maintenant à l'antenne.
On rappelle que c'est du double mixte. Eh bien, puisqu'on y est, Marcel, pourquoi ne pas évoquer ce sport plus en détail, hein ? Semble-t-il que son origine est écossaise, Marcel.
Bon, a priori, c'est vrai, ses premiers pratiquants proviennent des Flandres, mais c'est bien en Écosse que le curling se transforme en sport. Le premier club est créé à Édimbourg en 1795, c'est vieux, hein ? Le curling est aussi arrivé très tôt en Amérique du Nord, par notre mise, justement, des soldats britanniques. Et je crois que ce n'est pas seulement une légende, le curling reste longtemps un jeu à boire, c'est-à-dire accompagné de grandes consommations de whisky. Le Royal Montreal Curling Club est fondé en 1807 par des immigrés écossais, justement. Le premier club aux États-Unis est fondé en 1832. Le premier match international oppose Canadiens et Américains en 1865 à Buffalo. Le jeu est pratiqué en Suisse et dans les pays scandinaves dès la seconde moitié du 19e siècle, sans pour autant s'y développer énormément dans notre pays.
Alors Marcel, on essaie un peu d'imaginer le tableau. Hein. Les premiers joueurs de curling écossais en kilt et verre de whisky à la main. On ne sait pas ce que ça donnait au moment de se baisser pour ramasser les pierres.
Bah bon, Jérôme, s'il vous plaît, hein, y a un peu de l'exagération là. On n'a pas d'image, justement. On n'a aucune image. Mais c'est vrai que si c'est au Canada que l'on compte actuellement le plus grand nombre de pratiquants, la tradition ne meurt surtout pas en Écosse. Hein, ça, il faut le savoir. L'histoire raconte aussi que la pierre de curling est née au pays de la Cornemuse, autre étrangeté d'ailleurs de ce coin du monde, sous forme de gros blocs de roche joués sur la glace. Et que désormais, ces pierres sont toutes en granit pur. Là, il y a de la vérité, très dure et d'excellente qualité, extrait sur la petite île écossaise d'Elsa Craig depuis plus de 250 ans. Imaginez, la pierre de curling doit être poreuse. Non, justement, elle ne doit pas être poreuse, la pierre de curling. Comme le granit d'Alisa Craig possède cette rare qualité, on n'utilise que des pierres en provenance de cette île écossaise aux Jeux Olympiques.
Et on peut d'ailleurs se demander jusqu'à quand, Marcel, car il y a un hic.
Il y a un petit hic, hein, cette île volcanique déserte a été vendue en décembre 2011 par la marquise d'Elsa, une fondation. Elle l'a vendue à une fondation vouée à la conservation de l'environnement. Mais rien n'assurait que l'éventuel acheteur allait permettre l'extraction du granit. Heureusement, pour les passionnés de curling, tout semble indiquer que le prélèvement de granit pourra continuer, mais avec des temps d'arrêt assez longs pour ne pas déranger les populations de footbassins et de macareux. On prévoit d'ailleurs que l'exportation de 2000 tonnes de granit approvisionnera le monde entier en pierre de curling jusqu'en 2020, on est sauf pour quelques années.
Oh, bah nous voilà rassurés, Marcel. Hein. Non pas pour les pierres de curling, mais bien sûr pour les footbassins hein, qui peuvent vivre tranquillement sur l'île écossaise, la marquise d'Elsa et le balai. Alors lui, il vient aussi d'Écosse, tissé en poil de brebis, hein, je pense.
Ouais, pas tout à fait, hein, Jérôme. Selon la littérature, elle n'est pas très développée à ce propos. Il s'agit simplement de poils de linon. Par contre, des chercheurs de l'université d'Édimbourg, encore en Écosse, hein, se sont intéressés à savoir comment on pouvait optimiser les mouvements de balayage, sachant que le coup de balai a son incidence parfois crucial hein, sur la trajectoire de la pierre. Mais là, Jérôme, tout simplement, je vous laisse demander conseil à madame, elle a certainement quelques trucs.
Ah, parce que vous ne pensez pas que c'est moi qui fais ça.
J'ai pas l'impression, je ne sais pas pourquoi, je ne le sens pas. Le coup de balai chez vous, c'est pas ça.
C'est un scandale.
À la Maison Suisse.
Et cette rubrique est consacrée aux performances de nos athlètes. Tout est prêt pour accueillir les médaillés helvétiques à la Maison Suisse. Bon là, il faut attendre, hein, mais plus pour longtemps.
Non, il ne faut plus attendre très longtemps puisqu'il y aura une médaille, mais elle sera certainement d'argent pour les curleurs suisses. On vient d'en parler. Sinon, en ski de fond, les finales du sprint féminin et masculin vont démarrer d'ici quelques minutes après le terme de cette émission. D'ailleurs, en résumé, ce matin, un fondeur, Jovian Ediger, et deux fondeuses, Nadine Fendrich et Lauriane van den Graaf, ont passé le cap du prologue. Fine tacticienne, Lauriane van den Graaf est habilement sortie deuxième de sa série des quarts de finale. Elle est qualifiée pour les demi-finales. Nadine Fendrich, elle, a été éliminée. Côté masculin, également élimination de Jovian Ediger en quart de finale. Et puis bien sûr, auparavant, début de matinée, il y a cette déception de le combiné masculin de ski alpin. Les skieurs suisses ont passé à côté de leur sujet. Pas de médaille, pas de top 10 même. Meilleur espoir de médaille, le champion du monde en titre, Luca Erni, a terminé à la 11e place, à 3 secondes du vainqueur Marcel Hirscher. Et ceci après une manche de slalom très décevante. On écoute le Valaisan.
J'ai senti que j'étais pas tout à fait dans le rythme dès la première porte, mais de là, de prendre 2 secondes, c'était quand même beaucoup et ça m'a quand même bien étonné à l'arrivée. La neige était vraiment bien, c'était dur, donc on pouvait vraiment beaucoup pousser et c'est ça que j'ai pas assez fait. J'ai skié un petit peu trop rond et avec trop de tranquillité en début de courbe. J'avais un petit peu de vent, mais ça m'a pas trop gêné dans ma performance. J'ai vraiment essayé d'attaquer et c'est vraiment dès la première porte à la dernière que j'ai dû perdre ce temps. Mais beaucoup de vidéos à faire pour trouver pourquoi, et après on sera prêt de nouveau pour slalom.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial en Corée du Sud, Jan Esler. Les autres Suisses n'ont guère fait mieux, avec Mauro Cavizel qui a terminé à la 12e place, Carlo Janka est 15e, l'autre Valaisan, Justin Morizier, lui a connu l'élimination en slalom. Et je pense, Jérôme, que maintenant on va retrouver nos envoyés spéciaux du côté de Pyeongchang, le temps bien sûr de leur téléphoner.
Eh bien c'est exactement ça, et pour se patienter un petit coup, on écoute le groupe Pegasus. À tout de suite.
Les Seigneurs des Anneaux.
There are nights when the world is asleep, and I'm alone with my questions. I ask myself if I can go back again. Would I do things just the same? Would I leave behind the mark I left on all the loves and places, on every sheet I signed my name? Would I do the same if this was my last If this was my last call, I would say the things I never said. If this was my last night on earth. If this was my last night on earth, I would give it all I got. Will every mile I walk along my way find a place and a meaning? Is there a reason for the things I've done, for every day that I was gone? I'd reveal my secrets to all my hopes and fears to you. I wouldn't mind carrying the weight. It wouldn't be too late if this was my life. If this was my last call, I would say the things I never said. If this was my last call, asleep, and I'm alone with my questions. I ask myself if I can go back again. Would I do the same if this was my last night on earth? If this was my last call, I would say the things I never said. If this was my last.
C'était Pegasus dans Les Seigneurs des Anneaux à 13h14.
Les Seigneurs des Anneaux.
Et on passe à notre chronique. Allô Pyeongchang.
Allô Pyeongchang.
Eh oui, Marcel, c'est notre chronique qui nous permet de prendre la température sur place. Et là, on va retrouver du côté de la Corée du Sud, Joris Repon, qui lui suit les épreuves de sprint de ce qu'ils font. Et lui, contrairement à Yann Esler, il est à l'extérieur, Marcel.
Oui, parce que Yann Esler suit actuellement les épreuves de curling. Alors Joris, bonjour tout d'abord, ou bonsoir peut-être.
Oui, bonsoir.
Alors Joris, vous êtes en train de suivre les sprints en ski de fond dont les finales vont se disputer d'ici quelques minutes, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Mais en résumé, comment ça s'est déroulé pour les fondeurs suisses, parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient engagés?
Alors écoutez, ça s'est passé de façon un petit peu mitigée. On vient de voir passer en zone mixte Jovian Rediger qui a été éliminé en quart de finale. Il rêvait d'arriver un peu plus haut. Les demi-finales, ça aurait été une très très belle performance. Et puis la finale, ça aurait été un exploit. Malheureusement, il était dans une série où ça a été très très vite dès le début. Et c'est vrai qu'il a tout donné. Il espérait une course un petit peu plus tactique. Finalement, c'est au physique que ça s'est joué. Il n'a pas pu suivre les meilleurs. Et puis les deux autres qui étaient engagés dans cette compétition, ont dû également abandonner très vite. Et puis chez les dames, c'est Laurine Van Der Graaf qui a été la plus loin en demi-finale, malheureusement pour elle. Elle a fini sauf erreur au 7e rang. J'étais en train justement de parler avec Jovian Rediger, donc j'ai pas vu exactement le résultat, mais sauf erreur, elle a terminé 7e de cette série.
Donc elle a été éliminée, ça c'est sûr. Je crois que le grand problème pour Laurine Van Der Graaf, c'est que ces épreuves se déroulent en style classique et non pas en style libre où elle excelle.
Oui, exactement. Et c'est un petit peu le même problème, entre guillemets, pour tous les Suisses qui étaient engagés aujourd'hui. Jovian Rediger nous l'a dit également, c'est pas son style préféré. Et aujourd'hui, en plus, il neige sur Pyeongchang. Il fait très très froid, il neige. Et c'est vrai que c'était pas facile aussi dans les traces. Ça mettait justement de la neige qui rentrait dans les traces. Et pour ces fondeurs spécialistes de l'autre discipline, ça a été très compliqué aujourd'hui.
Joris, quel est l'environnement autour de ces compétitions de ski nordique, de ski de fond, plus précisément, l'ambiance, le public? On parle d'état de la neige, le froid, on le sait, on ne cesse d'y revenir, mais quelle est l'ambiance? Il y a quand même du monde, il y a quand même un certain enthousiasme autour de ces épreuves?
Oui, alors l'ambiance, c'est un petit peu particulier parce qu'on est juste à côté de la tribune principale qui est quand même, on doit le dire, à moitié vide. Malgré tout, il y a les supporters de chaque nation qui sont réunis au centre et qui font du bruit. Alors essentiellement, ce sont sans doute des membres du staff, de la famille, des athlètes ou autres qui ont fait le déplacement ici. Il y a aussi des Coréens qui regardent ces épreuves, mais c'est vrai que pour eux, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a énormément d'ambiance. J'étais hier du côté de Gangnam où est actuellement Yann et je passais tout près de la piste de short track, et là il y avait une ambiance énorme parce que c'est, on va dire, c'est pas le sport national, mais un sport où ils excellent. Par contre, dans les autres disciplines, c'est un petit peu plus compliqué parce que tout simplement ils n'ont pas véritablement d'idoles, de stars, et forcément ils se passionnent un petit peu moins.
Oui, le défi est peut-être pour les spectateurs aussi de lutter contre le froid. Joris, on a le même souci pour vous qu'on l'a eu pour Yann Esler. Est-ce que le journaliste envoyé spécial du côté de la Corée du Sud parvient à lutter contre le froid?
Oui, bon, en étant de toute façon envoyé spécial pour les Jeux Olympiques d'hiver, on s'attendait à avoir froid. On avait vu aussi les prévisions avant de partir qui étaient encore plus alarmantes parce qu'on en a fait du moins 20, moins 25. Alors on les a eus en tout début de JO, il a fait extrêmement froid, notamment quand il y a eu l'épreuve du petit tremplin, le saut à ski avec Simon Hamann, où là, c'était des températures qui étaient absolument terribles. Par contre, aujourd'hui, on a presque l'impression qu'il fait un petit peu meilleur. Alors il fait encore moins 6, moins 7, en tout cas avec un gros vent. Mais c'est pour vous dire quand même qu'on n'a plus tout à fait la même notion que quand on est en Suisse.
Joris Repon, merci beaucoup et bonne suite de jeu. Au revoir.
Au revoir, merci.
Et Marcel, les dieux des communications sont avec nous, car après plusieurs essais, on a retrouvé Yann Esler, figurez-vous. Il est plus ou moins au chaud, lui, dans la halle de curling pour suivre la finale du double mix entre la Suisse et le Canada qui vient de se terminer, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Et puis elle vient de se terminer pas de la meilleure des façons, vu que la Suisse s'est inclinée 10-3 après le sixième end. La paire composée de Perret et de Rios a décidé proprement et simplement d'arrêter les frais sur ce match et on serrait la main de leur adversaire, signifiant la fin de cette finale. Le Canada est donc champion olympique de curling double mixte. On va dire que l'équipe de Suisse sur cette partie a montré un visage presque un peu nerveux, timides. Ils ont essayé de tenter des fois quelque chose. On avait l'impression que les Canadiens avaient un voire deux coups d'avance dans leur tête par rapport à cette équipe de Suisse qui a semblé parfois un peu limitée.
Oui, précisément. On a le sentiment dans cette finale que l'équipe de Suisse n'était pas vraiment présente. Mais enfin, elle a quand même la médaille d'argent au bout du compte. Yann, le double mix est une nouvelle discipline introduite en curling. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Ça vous a plu ? Ça vous a convenu ? Ça plaît ?
Alors, c'est assez intéressant parce que c'est rapide, on va dire, c'est beaucoup plus rapide qu'un match de curling. Par contre, on voit quand même qu'au niveau de la précision, on n'atteint pas quand même les sommets qu'on peut avoir dans les matchs à quatre féminins ou masculins. Par contre, ce qu'on peut dire sur cette finale, c'est qu'on a vraiment vu que les Canadiens étaient au-dessus, mais ce n'est pas un hasard parce que figurez-vous que la Canadienne a été championne olympique à Sochi avec l'équipe féminine du Canada, donc à quatre, alors que le Canadien John Morris, lui, a été champion olympique, mais avec le Canada à Vancouver en 2010. Donc, ils sont issus, les deux, du curling à quatre, et on avait l'impression, un toucher supplémentaire, une sensibilité qui ont fait qu'ils ont pu passer l'épaule. Donc, je pense quand même qu'il y a beaucoup de progrès à faire du côté du double mix pour arriver au niveau du curling à quatre. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de la discipline, c'est assez entraînant, et je me dis que ça a un bel avenir devant lui.
Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Vous m'avez précédé. Cette discipline a quand même un bel avenir devant elle. Peut-être qu'elle manque encore un tout petit peu de maturité. C'est ça, si je vous comprends bien.
Faut pas oublier aussi que le curling double mix n'a pas commencé si tard que ça. C'était une dizaine d'années. Et Suisse Olympique a été assez, et Suisse Curling ont été assez malins de dire on va directement se mettre dans cette nouvelle discipline pour essayer de dénicher des champions. Il faut aussi savoir que la paire qui est médaillée d'argent aujourd'hui, composée de Perret et Rios, ne jouera pas les prochains championnats du monde, ainsi que les qualifications, les championnats de Suisse, pour laisser la place à d'autres paires de double mixte qui pourraient s'aimer et devenir les futurs champions de demain.
C'est ma dernière question, Yann. Mais comment se compose une paire de curling ? Comment en vient-on finalement à jouer avec tel ou tel curleur ou curleuse ? C'est la fédération qui décide ? Vous en avez une idée ?
Alors, ça dépend. Il y a des fois des personnes qui jouent ensemble au curling à quatre qui se mettent au curling double mix parce que peut-être par intérêt ou sinon des fois il faut quand même se le dire. Par exemple, si on regarde le cas de Jenny Perret, elle est la première remplaçante de l'équipe de Suisse de curling à quatre, donc elle va rester aux Jeux Olympiques au cas où s'il y a une des Suisses qui se blesse, celle qui prendra sa place. Donc des fois ils n'ont pas forcément l'occasion de pouvoir être au top dans l'équipe à quatre, ce qui fait qu'ils se mettent au curling double mix. Mais pour regarder par exemple les Canadiens qui ont été champions olympiques en curling à 4, et bien eux, lors des trials canadiens, donc pour se qualifier, la Canadienne a perdu son partenaire quelques minutes avant ses trials, et 30 minutes juste avant, elle s'est retrouvée avec Maurice pour cette épreuve qu'ils ont remportée. Ils ont été donc après envoyés ici à Pyeongchang. Donc finalement, c'est peut-être des fois des concours de circonstances qui fait qu'on se lance dans ce nouveau sport.
Nessler, merci beaucoup et on va dire bonne fin de soirée puisqu'il est actuellement 21h22 du côté de la Corée du Sud. Au revoir.
Bonne soirée à vous.
Le tableau des médailles.
Et qui a marqué de son empreinte cette journée olympique, Marcel, hein ? Il y a manifestement deux noms qui ressortent, celui d'une jeune surfeuse américaine et celui d'un autre Marcel, un peu moins connu que vous.
Oui, surtout de ce côté-ci, j'allais dire de la Sarine, moi, enfin, quoi qu'il en soit. Bien oui, c'est Marcel Hirscher, bien évidemment, qui ne pouvait pas mieux entamer ces Jeux Olympiques. Le skieur autrichien a dominé le combiné alpin de ce matin, ce qui ne constitue pas vraiment sa discipline de prédilection, hein. Il s'agit curieusement d'ailleurs pour lui du premier titre olympique de sa carrière. Ce n'est peut-être d'ailleurs qu'une mise en bouche pour Marcel Hirscher en Corée du Sud. Il est le favori aussi bien du spécial que du géant. Le ski français, lui aussi, a été à la fête avec la médaille d'argent et de bronze, respectivement, pour Alexis Pinturault et Victor Mufa-Jandet. Le second nom à mettre en évidence est celui d'une surfeuse américaine d'origine coréenne. Il s'agit de Chloé Kim, qui est devenue championne olympique du halfpipe ce matin à l'âge de 17 ans. On ne résiste pas à vous dire que Chloé Kim a séjourné en Suisse, qu'elle s'est entraînée en Valais entre 8 et 10 ans. Elle a séjourné chez sa tante sud-coréenne, où elle a suivi aussi un entraînement intensif et là, sous la conduite de son père.
La suite de la glisse.
Bon, Marcel, les emplettes de la délégation suisse sont plutôt modestes jusque-là. On veut des médailles, Marcel. Les athlètes suisses peuvent-ils prétendre à des breloques demain ?
Bien oui, après la médaille d'argent curling, nous devons déjà y croire dans le slalom spécial féminin. Trois skieuses suisses sont en lice, Denise Feyerabend, Michaela Gisin et Wendy Holdener. Wendy Holdener s'est montrée très régulière cette saison dans la discipline, derrière la presque intouchable Michaela Schifrin. En revanche, Michaela Gisin, par exemple, ne s'est hissée qu'une seule fois cette saison dans le top 10 de la discipline. On l'écoute.
Là, maintenant, ça m'aide parce que là-bas, j'ai vraiment pas bien skié. J'ai fait un intérieur après trois portes et c'était pas du tout ma performance. Mais je pense que toute cette expérience de Sochi, ça va être... Et je sens déjà comme c'est important pour cette année, pour ces Jeux ici. Et ouais, les ambitions sont beaucoup plus grandes. J'ai des chances dans toutes les courses que je vais participer. J'ai des chances de faire une top résultat et je me réjouis déjà beaucoup et j'essaye de rester très calme et après je verrai qu'est-ce que ça va donner.
Départ de la première manche de ce spécial féminin à 2h15 demain matin. Le titre olympique, lui, se jouera dans la seconde manche à partir de 5h45. Il n'y a guère d'autres médailles en vue, à moins qu'une des trois sœurs Gasparine ou Lena Ekki ne signe un exploit dans le 15 km du biathlon demain. Il y a 4 ans, rappelons-le tout de même, à Sochi, Celina Gasparine avait enlevé une inattendue médaille d'argent. D'ores et déjà qualifiée pour les quarts de finale, l'équipe de Suisse féminine de hockey sur glace disputera un dernier match dans le tour éliminatoire demain et affronte la Suède à 4h10 du matin. Selon jeu désigné le vainqueur du groupe. Enfin, Yann Scherrer et Pat Burgener tenteront eux de faire oublier Youri Podlachikov, tenant du titre dans la finale du Halfpipe. Début du spectacle vers 3h30 du matin.
On se réjouit, vous allez vous lever ?
Alors franchement, non.
Bon, les deux.
Je dois vous l'avouer. On peut toujours le suivre en rediffusion, mais enfin, le spectacle est très intéressant. Et a priori, de toute manière, Yann Scherrer et Pat Burgener n'ont aucune chance de médaille hein, parce qu'ils se sont qualifiés pour la finale. Mais enfin, ils étaient quand même loin des premiers. Mais on ne sait jamais, hein, tout à coup, surtout dans les Jeux Olympiques, tout peut se produire. On ne le sait pas. Tout à coup, il y a un sportif, un athlète qui est capable de se survolter tout simplement parce que c'est une échéance plus importante que les autres. Et ça arrive. Et pourquoi pas imaginer que Yann Scherrer et Pat Burgener monte sur le podium, on ne sait jamais.
Sixième et neuvième des qualifs, sauf erreur, donc ils n'ont rien à perdre.
Je vois que vous êtes un spécialiste, effectivement, sixième et neuvième des qualifications.
Alors, c'est la fin déjà des Seigneurs des Anneaux, mon cher Marcel, et demain, c'est pas vous qui allez m'accompagner, ce sera Émilie Mumenthaler.
Que l'on va retrouver dans une forme olympique, on en est certain.
On espère bien. Excellente journée à vous, Marcel.
Ok, bonne journée.
Allez, au revoir.